Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, il fait encore chaud. On a encore le droit de se plaindre aujourd'hui. Demain, il semble qu'un petit courant d'air frais va nous passer dessus le toupette. Alors, profitons-en encore aujourd'hui. Bien sûr, hydratez-vous. Faites en sorte, dès que vous peut-être sentez un malaise, de rentrer à l'intérieur. Vous avez vu qu'il y a quand même des gens qui ont beaucoup, beaucoup souffert de cette canicule. On va parler, nous, aujourd'hui, de beaucoup de choses. On va, en deuxième heure d'émission, puisque c'est temps de canicule et qu'on ne sait plus quoi faire de notre corps, il y en a qui ont réglé le problème depuis des années, parce que qui dit « on a chaud » dit « tout le monde tout nu ». Et il y a effectivement, depuis des années, un courant de nudisme, en fait, on doit plutôt dire de naturisme au Québec, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui pratiquent cette discipline ou cette façon de vivre, à vous dire que c'est finalement la meilleure façon de passer l'été puis de vivre aussi. Alors, on aura des naturistes qui vont venir nous expliquer pourquoi on devrait tous finalement lâcher notre linge. D'abord, ça serait beaucoup plus économique. Mais il y a aussi tout un mode de vie derrière ça. C'est drôle parce que j'ai appris quelque chose, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs en deuxième heure d'émission. Savez-vous comment on appelle un camping où le monde est habillé? Ça s'appelle un camping textile. C'est drôle, non? C'est quelqu'un qui m'a écrit ça. Camping textile. J'avais jamais entendu ça. T'sais, moi, j'aime me lever le matin puis me dire, je vais me coucher moins niaiseuse ce soir. Bon, alors ça, c'est en deuxième heure. On aura également la visite de Serge Postigo. Pourquoi? À cause de fame. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. Oh, I feel it coming together. People will see me and cry. I'm gonna make it to heaven. Light up the sky like a flame. I'm gonna live forever. Baby, remember my name. Hey, je vais vous faire une confidence, OK? J'ai, comme probablement toute ma gang en théâtre à l'époque, quand j'avais 20 ans, j'ai couru, dansé, chanté dans les rues avec ce film-là que j'ai dû voir 35 millions de fois. Je suis allée voir Fame hier pour vous et on va en parler tout à l'heure avec Serge Postigo qui fait plein d'autres choses d'ailleurs. On aura ça en deuxième heure d'émission. Mais d'abord, je ne pouvais pas, vous savez que je termine demain pour les vacances et ça me fait de la peine de vous quitter, mais je ne pouvais pas non plus partir sans revoir mon équipe de feu avec laquelle je parle de voiture à peu près pas mal, quasiment une fois par semaine finalement. Et alors, on ne s'est pas tenté un espèce de sujet pour qu'il puisse être là. Je vous représente Benoît Charrette. Merci beaucoup d'être là, Benoît.
Salut, Isabelle, merci.
Antoine Joubert, merci, Antoine, d'être avec nous.
Ben, grand plaisir.
Et là, on s'est dit, tu sais, t'as toujours besoin de parler d'auto. On a toujours besoin. C'est comme
en tout cas, à date, on n'a pas épuisé le sujet
non,
encore.
Non, il y a toujours moyen d'en parler. C'est fascinant parce que, en fait, avec la météo, le hockey, tu sais, moins là, en tout cas personnellement. Mais les voitures, ça, c'est un sujet important. Et on a toujours besoin de conseils pour faire le bon choix parce qu'il y a toujours des nouveaux modèles. Et j'avais envie d'avoir vos coups de cœur parce que chaque fois que vous venez, on termine l'émission puis on a de la difficulté à savoir vraiment sur quoi. Qu'est-ce que vous essayez? Parce que vous en avez tout le temps, vous, des nouveaux véhicules, vous les essayez. Vous avez votre top 10, votre top 10 des bons, top 10 des moins bons. Fait que ça va être ça aujourd'hui, notre sujet. Benoît, justement, qui essaye régulièrement des nouveaux véhicules.
Oui, il n'essaye pas beaucoup des anciens, Benoît.
Antoine, ils achètent, lui, les anciens.
C'est ça, collectionneur. Ouais, voilà. Collectionneur. Tes coups de cœur, toi, avec les nouveaux modèles. Là, on sait qu'il va y avoir des nouveaux modèles 2019.
Oui, ben on est là-dedans, nous, depuis déjà quelques mois. Là, ouais. Les 2018 s'en vont, les 2019 arrivent. Dans ce que j'ai essayé récemment, qui n'est pas encore arrivé, Mercedes Classe A. Qui est un modèle qui existe en Europe depuis 1997, qui est à sa quatrième génération, mais qui va arriver ici seulement qu'en 2019. La voiture a changé de vocation. C'était une espèce de petit fourgonnette, genre un peu tarabiscoté. Là. Ça avait une
mini classe
d'aspect.
B. Un
ouais, peu. C'est ouais. Ça, là.
Puis ben, ça doit être petit parce que
t'as la B, la A, c'est le plus petit.
Mais ouais. Les Européens appellent ça un mini-space.
Oui, ouais, c'est ça.
D'accord. Un mini-espace.
Là, c'est devenu... en fait, c'est un mini-monospace. Là, ouais. Mais c'est devenu une berline. Berline à haillons. Puis il va y avoir un modèle aussi, berline avec coffre. Là, un berline, une 4 portes puis un 5 portes, 3 volumes. Alors, je suis allé le rouler il n'y a pas très longtemps. Puis je trouve, en fait, ce que Mercedes a fait qui est intéressant, c'est que la technologie qu'on retrouve généralement dans les classes S, les classes E, les technologies d'avant-garde, on l'a mis dans la classe A. Fait que pour une fois, je pense qu'on a mis la technologie à la bonne place parce que c'est une voiture qui va s'adresser surtout à des milléniaux, à des gens techno.
Combien
urbains.
Qu'elle coûte ou va coûter?
Ça va commencer autour de 30 000. Là. On parle pas d'un modèle là, à 75-80 000. Là. Bon, il va y avoir un modèle AMG plus cher, mais la technologie va être disponible dans ces modèles-là. Puis je trouve ça intelligent parce que c'est le genre de personnes qui achètent ce véhicule-là qui l'utilisent. Parce que trop souvent, les personnes qui achètent des séries S, c'est des gens des classes S, c'est des gens qui ont 65, 70 ans, puis la technologie...
Tu peux monter, tu sais, une classe S... Là,
ça coûte combien, ça?
Ben, tu peux acheter une classe S à 140 000, mais le propriétaire essaie d'allumer son micro-ondes pour écouter la télé. Fait que, tu sais, des fois, tu fais... Ouais.
Je voulais pas aller si loin que ça,
non, mais c'est vrai, t'as le clash des générations au niveau de ceux qui vont vouloir se procurer ce genre de véhicule-là et la technologie qu'il y a dedans, qui, pour nous qui sommes des spécialistes, est difficile à comprendre.
Ouais. Mm-hmm.
Fait que... Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, c'est l'enfer.
C'est un casse-tête. Moi, souvent, j'ai des gens qui travaillent en concession qui m'ont dit les gens arrivent, ils disent, bon, mets-moi ça là, par défaut, partout.
Non, mais ça, je vais vous dire, je suis contente qu'on parle de ça, parce que j'ai essayé des véhicules dernièrement, puis ça m'a un peu fatiguée de voir à quel point il y avait tellement de technologies, beaucoup plus que ce que j'aurais souhaité. Moi, dans le fond, je veux juste que ma voiture roule. Tu sais, un volant, des pneus, une bonne suspension, je n'en demande pas tant que ça. Une bonne radio, des sièges chauffants parce qu'on est au Québec, des fenêtres électriques parce qu'on est au Québec, mais je veux pas une TV 4K, je veux pas un système. C'est trop compliqué et ça brise.
Ben, en fait, quand ça va bien, c'est merveilleux.
Ouais.
Quand ça brise, ça coûte cher.
Ben, je vais vous donner un exemple bien simple. Aujourd'hui, là, je suis venu ici ce matin avec une Chevrolet Cruze flambant neuve 2018. Modèle turbo-diesel, qui pour moi est un non-sens dans une Chevrolet Cruze, parce que déjà, une Chevrolet Cruze, ça roule à du 6 litres, 6 litres et demi au 100. Alors, pourquoi mettre un moteur diesel qui coûte plusieurs milliers de dollars de
turbo,
plus?
Turbo, en plus.
Oui, mais turbo-diesel, bon.
Pour sauver un litre
pour
au 100.
Pour sauver à peine un litre au 100 kilomètres. Mais les coûts d'entretien de ce moteur-là sont très élevés. Mm. Ça prend du liquide duré. Et là, j'ai un problème avec le véhicule. Le check engine est allumé ce matin. La voiture a 600
km
parce qu'il y a un problème avec le liquide duré. Oui, elle a Oui, mais la voiture, c'est une 2018.
Oui, c'est pas normal.
Elle a quelques mois à peine.
Non, alors moi, Chevrolet Cruze, oui, mais allez-y à gaz. Tu sais, des fois, il y a des technologies qu'on essaie de mettre dans des voitures pour sauver pas grand-chose.
Le diesel, on peut-tu dire que c'est un échec?
Ça? Ah, c'est un échec monumental.
Bien là, depuis le scandale Volkswagen, puis on le voit, là, les Allemands qui ne prêchaient que par le diesel sont en train de changer leur fusil d'épaule. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu en retard à la parade, parce qu'on n'avait pas prévu ces modèles-là pour encore plusieurs années. Mais là, on a comme un petit peu forcé la main. Là. Les gouvernements allemands qui prêtaient, en fait, qui ont largement subventionné les moteurs diesel en Europe pendant des années. Il y avait des rabais au carburant, des rabais à l'achat des véhicules. Là, on a tout laissé tomber ça. Mais on doit réinvestir pour aller dans l'électrique parce que c'est pas là qu'on s'en allait. Là, on arrive là rapidement.
Mais ça va être le prochain scandale. Ça va être Mercedes parce que là, le recours collectif vient d'être certifié. Donc,
Et il va en avoir d'autres.
Oh, oui, c'est ça.
D'autres marques?
Ben oui, ben oui.
Là, il y a des enquêtes en ce moment sur BMW, Peugeot, Citroën, Renault.
Tous ceux qui ont prétendu avoir des diesels qui étaient non polluants.
Parce qu'il y avait des diesels, parce que les dispositifs dans ces véhicules-là proviennent à peu près tous de la même place. C'est Bosch. C'est la compagnie Bosch qui avait développé le logiciel pour les émissions polluantes de ces véhicules-là. Alors, je vous parle de la Chevrolet Cruze, là. Personne ne l'a dit, mais lorsqu'il est arrivé le scandale Volkswagen en 2015, c'est drôle, la Cruze diesel qui était sur le marché pourtant, elle est disparue sans que personne s'en rende compte. Bye-bye. Qu'est-ce qui s'est passé? On a retardé le lancement de la camionnette Colorado Canyon à moteur diesel. Ah, ni vu ni connu.
Ah.
C'est clair que ces véhicules-là ne passaient pas, là. Et c'est le cas pour tous les moteurs BlueTech de Mercedes.
Ouais.
Parce que les moteurs BlueTech diesel chez Mercedes, ça représentait plus de 50 % des ventes au Canada il y a quelques années.
Ah ouais,
il n'y
en
a plus aujourd'hui.
Mm.
Alors, c'est un virage à 180 degrés là, pour Mercedes.
Ouais.
Faut se revirer de bord et rapidement. Mais il y en a plein les routes de ces véhicules-là. Mm. Et est-ce que vous allez me dire que ceux-là sont moins pires que les TDI de Volkswagen? Absolument pas. Et l'ironie, c'est que les TDI de Volkswagen, si tu me permets, c'est que je passe sur l'autoroute 50 à quelques reprises, et là, tu as une mère de Volkswagen TDI qui sont stationnées là, en attente d'on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qui pollue plus, selon
Ils vont les détruire, hein? Ouais, ah, c'est ce que j'ai entendu.
Ils sont supposés les détruire, mais semble-t-il qu'on essaie aussi de les vendre dans d'autres pays où ça passerait les normes.
J'imagine.
Mais on s'entend-tu que c'est le même air?
Ouais.
Alors, moi, la question que je pose à Volkswagen...
Mais c'est un air ailleurs.
Qu'est-ce qui pollue plus? Est-ce que, disons qu'il y a 150 000 Volkswagen TDI qui ont été retirés de la route. Là. Est-ce que ça pollue plus de stationner 150 000 voitures puis de les laisser pourrir là puis de les détruire et d'en vendre et d'en mettre 150 000 autres neuves sur la route?
Ouais. Puis on
ou
sait
de
où,
juste
là?
Continuer à laisser rouler ces autos-là?
Ça va être en Afrique. Ouais. L'Afrique qui devient la poubelle des voitures que les autres ne veulent pas.
Il y a malheureusement beaucoup de pays qui ont à peu près pas de normes ou très peu de normes. Alors, l'inconvénient, c'est qu'ils n'ont probablement pas les moyens d'acheter ces véhicules-là, même d'occasion. Alors, il faut trouver un marché émergent où il y a assez d'argent pour acheter une Vaux, mais que les normes sont pas trop sévères. Ouais. Fait que là, on doit éplucher pas mal les pays en ce moment pour voir où on peut passer ça. Là.
Fait que donc, toi, ta Cruze, là, c'était pas un coup de cœur, là?
Ah, bien, la Cruze, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de masse non plus. Ouais. C'est juste que dans sa version diesel, je considère que ça vaut absolument pas la peine. Non, non, moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est quoi?
C'est quoi?
C'est finalement, on a approuvé l'immatriculation personnalisée au Québec.
T'es pas sérieux?
Ah oui, moi, je suis le fervent.
Toi, tu vas mettre quoi?
J'attends ça depuis
toujours.
Qu'est-ce que tu veux mettre sur ta plaque?
Ah, ça dépend du véhicule, mais j'en ai trop. Fait que
combien t'as de voitures déjà?
Là, j'en ai une de moins que la semaine passée, ben je n'ai vendu une cette semaine.
Il
m'en reste 8, c'est pas pire.
8?
Ouais.
Qu'est-ce que tu as vendu?
Une Camaro.
Oh.
Ben oui. Parce que là, à un moment donné, moi, le mois de juin, c'est le mois où arrive le renouvellement de l'immatriculation. Et quand tu as bien des grosses cylindrées à la maison, à 500$ de la plaque par voiture, tu fais, à un moment donné, bon.
Fait que là, ils mettent tout ça sur la table, ils ferment les yeux, puis ils mettent quoi sur un... Bon, OK, ça. Lui, s'en va.
Et j'appelle donc, Benoît, passe-moi 2000$, faut que je mes autos.
Fait que qu'est-ce que tu mettrais? Sincèrement, moi, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, bon, je l'ai tout de suite vu comme une façon d'aller chercher de l'argent dans les poches du monde.
Mais c'est correct, parce que c'est volontaire. Volontaire. Moi, la question que j'ai, c'est qui sera le premier à être capable de réserver, parce que là, ça se promène sur les réseaux sociaux, quelle plaque on va mettre dans la main. Tout le monde dit, je veux mettre G-L-D-O-U-A, j'ai le doigt. Alors, gens veulent aller chercher ça, mais tout le monde mentionne ça. Moi, je veux savoir qui va être capable de mettre la main sur cette plaque-là en premier. Ça va être génial.
Ça, c'est toi. Toi, tu mettrais quoi, Benoît?
Bonne question. J'ai jamais vraiment pensé à ça, là, mais faudrait que j'y réfléchisse.
Benoît 1.
Hein? Ben oui. Un gars humble.
Benoît Premier.
Benoît Premier.
C'est ça.
Je sais pas ce que je mettrais, moi.
Hein?
Sincèrement. Il y a des choses, il y a des questions. Je me pose beaucoup de questions dans la vie, mais toi, celle-là, me la pose pas. Qu'est-ce que je mettrais sur ma plaque?
985 FM, ça marche?
Ça? Ah, ça, ça serait bon. Ouais.
Et ça, c'est une belle plug de la station que je viens de faire.
Faudrait qu'il me paye, là, par exemple. Tu me payerais mon immatriculation. On va aller voir ce que nos auditeurs en parlent. Vous me direz, là, qu'est-ce que vous voulez mettre si vous avez les moyens de vous payer, parce que ça coûte quand même, c'est quoi,
250
quelques dollars, là?
Ouais. Ouais. Ben, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, celle-là, je l'ai trouvée bonne. T-J-R-S-K-C.
Toujours cassé.
Puis le gars est propriétaire d'une Saab.
Toujours
j'ai trouvé
cassé.
Ça génial.
Ça, c'est drôle.
J'ai trouvé ça
c'est
génial.
Bien qu'une Saab.
Ça, c'est très drôle. Il y a d'ailleurs une caricature aujourd'hui dans le Journal de Montréal. C'est plein de gens là, avec justement leur nouvelle plaque.
Ouais.
Celle de François Legault, c'est « On verra ». Celle de Jean-François Lisée, 50+1 Celle de Philippe Couillard, un chum. Et là, je vous dis ça de mémoire, elle m'a marqué. Et celle de Manon Massé, c'est Pogo avec un E. Parce que vous vous souvenez pourquoi? Ouais. Parce qu'elle avait dit, hey, ça prend pas.
Ça prend une face de pogo, là.
Non, prend pas des pogos dans la boîte, là. Ça prend pas des pogos dégelés, là.
Ah oui, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte.
Exactement.
Celle d'Alain Bellemare.
Pour l'égalité des sexes,
Celle d'Alain Bellemare, ça serait Airbus.
Ah oui.
Hein, ça marche, ça?
Ouais. Non, ça serait. Comment tu écris le. C'est que ça serait quoi le diminutif de on vous a bien eu?
Oh, oui, c'est ça. On vous a bien eu. Là, on pense à voix haute.
Ça pourrait peut-être plus quelqu'un de Bombardier.
Oui, c'est ça.
On vous a bien eu.
Ils feront des meetings pour y penser.
Oh, mon Dieu.
La personne d'Airbus qui gère ici pourra avoir ça sur sa plaque, oui.
On va s'arrêter ici. 514-790-9850.
Les vacances arrivent, Isabelle.
Ben, c'est bien correct. Je suis sûr que le monde aime ça. Ils sont tous en train de réfléchir à ce qu'ils pourraient mettre sur leur plaque. 1-866-790-9850. Vous pouvez nous joindre. On jase de voiture ce matin. Comment faire le bon choix? Parce que c'est vrai, c'est un achat important. quand on met de l'argent dans une voiture. Je vous parlais d'une de dépense de maison, de rénovation. Cette semaine, on parlait des coûts de réno. Tout de suite après les réno, là, c'est vraiment la voiture qui est l'espèce de casse-tête le plus important parce que c'est des coûts importants. Puis malheureusement, on a encore tendance, on va en parler avec nos spécialistes Antoine et Benoît après, mais on a encore tendance à acheter beaucoup plus un paiement d'auto qu'un véhicule. Et ça, va falloir qu'on perde cette mauvaise habitude-là parce que là, vous vous retrouvez des fois comme... C'est comme ça que vous vous retrouvez dans des ballons, la fameuse ballon de la voiture que tu continues de payer, mais que tu n'as plus déjà depuis 2 ans. Ça, c'est pas très brillant. Là. Disons que sur un budget, c'est pas la chose à faire. Donc, oui, il faut poser les questions, il faut faire nos devoirs. Il faut aussi écouter nos spécialistes qui nous disent, qui nous conseillent et nous disent quels sont leurs coups de cœur. Ils vont le faire après la pause également. On vous écoute tout de suite après. Alors, comment choisir le bon véhicule? Comment ne pas se faire avoir? Évidemment, c'est toujours les questions, les premières qu'on se pose quand on veut acheter une voiture, parce qu'il y en a tellement. En plus, je suis en compagnie d'Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'auto. Benoît Charrette est éditeur et rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile 2018 et également de l'annuel de l'auto d'occasion 2018. On a avec nous, il y a pas mal d'auditeurs qui veulent intervenir. On commence avec vous, André. Bonjour.
Bonjour. Un petit commentaire. Oui? J'ai un Jeep Rubicon, un 2007, monté, fait la trail sur le 33 pouces et tout le kit.
Okay. Voilà. En faites-vous de la trail ou c'est juste pour faire
Oui, j'en fais de la trail. Okay. Et je passe par Montréal, fait que c'est le fun, on peut faire de la trail.
Oui.
Vous êtes
probablement
raison.
Mieux équipé pour faire face aux routes de Montréal, d'ailleurs.
Oui, tellement.
C'est inimaginable. Écoutez, ma fille est directrice d'une compagnie de communication pour être allée faire de la trail à Saint-Donat. On est revenu. À conduisant, en revenant, on a traversé Montréal. C'est pas des farces.
C'est épouvantable.
On s'est fait brosser plus dans la ville que.
Ah ouais. Les puces à Saint-Donat, t'as plus belle que ça.
Non, t'as plus belle que ça.
Ça n'a pas de bon sens.
C'est même pas nos chemins de terre. Là. Moi, je suis de Granby. Même pas nos chemins de terre. Là. Saint-Joachim, Béthanie, c'est mieux que ça. Là.
Ouais.
aucun Moses de bon sens.
Fait que êtes-vous content de votre Rubicon?
Oui. Oui, c'est ça, c'est ma bébelle, ça, là, c'est ma bébelle, là, je suis à ma retraite, là, c'est ma bébelle, j'ai autant de morceaux montés que la valeur du Jeep.
Ben oui, mais ça...
On a mis des bidules après ça, ça n'a pas de bon sens, bumper, winch, etc. Ben, de toute façon, un Jeep, les gars, vous le savez, le catalogue a 2 pouces d'épaisseur.
Oui, le catalogue
deux
a plusieurs pouces, pages.
Moi, je dirais 2 mètres, mais vous savez que c'est le véhicule le plus modifié en Amérique du Nord, le Jeep Wrangler.
Ouais. Ah ouais.
Ouais. Oui. En passant, les gars,
la fille aussi,
elle
sait
ça. Monter ça.
Ouais, allez,
on
oui.
a plus besoin de monter ça sur le 33.
Il y a des nouvelles règles qui sont embarquées. Vous avez le droit de le monter sur le 33, mais il y a une règle concernant le dépassement des pneus par rapport aux ailes qui a été modifiée récemment.
Oui, d'accord, oui.
Ouais. Mais je pense, il faudrait que je vérifie, là, il y a pour certaines routes qu'on ne peut pas rouler sur du 33.
C'est sûr qu'en, du 33 de pneus.
Ben, c'est pour du hors-route. Là. À la base, un 33 pouces, bon, on voit certains, certaines camionnettes.
Pouces?
Ça dépend
c'est ça, il y a des qualités dans ça.
Ça
là.
Peut coûter une fortune. Ouais. Mais tu sais, on est la seule place en Amérique du Nord où c'est le genre de règlement qui pourrait être un problème.
C'est vrai?
Allez vous promener n'importe où, là, vous allez avoir des camionnettes qui sont plus hautes que vos maisons.
Tu vas aux États-Unis, là,
c'est incroyable.
Ça roule sur du 34, du 35, sur des
En Californie, là, à des endroits où c'est absolument pas utile, mais les gars modifient leur véhicule, etc. Mm. Si c'est sécuritairement monté, c'est correct. Oui.
Mais ça, moi, je me dis, autant que ça soit sécuritairement monté, pas en broche à foin, je vois pas, il semble qu'il y en a qui soient faites arrêter.
Oh, ben
conseiller d'aller faire la vérification au bureau des véhicules.
La problématique de ça, ça va avoir l'air péjoratif un peu, là, mais c'est souvent qu'il y a un fonctionnaire qui n'est pas capable de mettre le doigt sur la façon de réglementer ça. Alors, plutôt que de pouvoir bien le faire, on fait « non, on ne peut pas ». C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des trucs qui seraient super...
Je vais vous donner un exemple. Sur la rouge, là,
moi, je modifie un véhicule. J'ai rebâti un camion qui m'a coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le véhicule est sorti de l'usine avec des tambours à l'arrière. Moi, j'ai converti les tambours en frein à disque à l'arrière. pour que ça freine mieux, pour que ce soit plus performant.
C'est plus sécuritaire.
Je suis arrivé à l'inspection mécanique et on m'a dit non, monsieur, c'est pas conforme, le véhicule n'est pas sorti de l'usine comme ça, remettez des tambours. Là, j'ai dit, ben là, écoutez, le véhicule est juste plus sécuritaire comme ça.
Ben ouais.
Et la réponse que j'ai eue du vérificateur de la SAC, c'est je ne suis pas payé pour réfléchir, je suis payé pour exécuter ce qui est écrit dans le livre. Alors, quand on part avec des
nombres... Non, mais t'as-tu dit ça pour vrai?
Il m'a dit exactement ça, et je peux vous nommer l'endroit, c'est Joliette Chrysler. Il y a un centre d'inspection mécanique là-bas, les deux bras me sont tombés. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, je suis allé dans un autre centre d'inspection, puis le gars m'a dit, ben oui, vas-y, c'est beau.
Ah oui?
Ben oui.
Ah, OK, fait qu'il faut magasiner son centre d'inspection.
Ben absolument.
Bon, mais merci.
Non, moi, j'en revenais pas. Ouais. Parce que, je veux dire, un centre d'inspection de la SAC annexé à un concessionnaire, c'est pas le concessionnaire qui en est responsable, mais à un moment donné, il y a toujours bien une logique à avoir en arrière de ça. Alors, c'est pour ça que moi, je me dis souvent,
non, mais c'est
tu vas avoir des modifications
sur un
véhicule.
Je suis pas payé pour réfléchir. Franchement,
c'est
une façon de dire les choses.
Ouais.
On a Michel qui est avec nous. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour.
Vous
merci
écoute.
Pour votre émission, c'est super intéressant. Je voudrais poser une question à M. Charette.
Oui.
Mon conjoint vient de s'acheter une Tesla.
Okay?
Il l'a commandée, il va l'avoir au mois de fin juillet.
OK.
Quel modèle, la
Tesla 3 ou?
Là, c'est pas l'auto, c'est l'autre qu'on peut tirer quelque chose en arrière. C'est le
Model X.
Ah, le Model X. Appelons ça l'utilitaire.
Oui,
ah,
c'est
oui.
ça. Oui, il vient de la commander. Fait que là, on apprend qu'il va y avoir 10% de taxes en plus à cause de...
Ah ben oui.
Des problèmes là. Fait que là, il veut annuler...
Des tarifs douaniers de Donald Trump, oui.
Oui, c'est ça.
10% sur ce véhicule-là, c'est pas rien, hein?
C'est un endroit d'accord, ça.
Justement, c'est un beau petit 1000, peut-être, et plus. Fait que c'est ça. Il voudrait... Il a appelé le concessionnaire, il a dit non, il dit je vais annuler. Puis il a donné un dépôt de 2500 déjà, tout. Je sais pas s'il peut perdre son dépôt à cause de ça.
Faudrait voir. Je sais que sur les modèles 3, le dépôt était remboursable.
Oui.
Ben oui, en général, si le véhicule n'a pas été livré.
Oui. En général, les dépôts, c'est remboursable.
Oui.
À moins d'avis contraire, s'il a signé un papier comme quoi ça ne l'était pas, mais un dépôt, tant que le véhicule n'a pas été pris, signé, c'est remboursable.
Fait mais que... traînez pas, là, parce que si vous êtes sûr de pas...
Ouais. C'est ça, parce qu'il était supposé de l'avoir dans deux semaines.
Ouais.
Là, il a rappelé, il dit, ben là, c'est retardé parce qu'il fallait qu'il vende sa Porsche, parce qu'il faut qu'il vende son auto.
Ouais.
Là, il peut pas vendre son auto parce qu'il attend, tu sais, après le concessionnaire. Fait que, c'est tout un charivari, tout. Mm. Fait que, c'est ça. Est-ce qu'on peut...
Mais mettons que c'est des beaux problèmes, Michel.
Hein, regardez,
avoir le problème de vendre ta Porsche pour attendre ton modèle X de Tesla, mettons que ça va bien dans la vie, là, tu sais.
C'est pas le fun. Les gens riches et malheureux.
Bonne journée à vous. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut rejoindre M. Charette en quelque part sur un site?
Laissez votre. Allez sur benoîtcharette.com. J'ai mon site Internet.
Est-ce qu'on peut vous rejoindre pour avoir vos commentaires? Parce que lui, il pourrait vous expliquer le problème.
Sur mon site Internet, il y a mon adresse Internet juste en bas. Alors, vous pouvez m'écrire là, en me spécifiant qu'on s'est parlé ici à l'émission, puis on va régler ça.
Voilà. C'est gratuit, ça, hein, Benoît?
Ben oui, nous autres, on est des gens comme ça.
On a Geneviève avec nous. Bonjour, Geneviève.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je suis propriétaire d'une Nissan Versa 2009. Alors, elle achève tranquillement. Et on songe s'acheter un petit VUS. Là. On avait regardé le Honda HR-V. Mais là, il y a la Nissan Kicks qui est sortie.
Ouais.
Et je voulais avoir votre opinion par rapport à ça.
Antoine?
Bon, moi, je vais vous donner mon coup de cœur dans ce segment-là cette année. Et ce n'est pas la Nissan Kicks qui est correcte, mais qui révolutionne absolument rien et qui, en quelque sorte, vient remplacer la Nissan Versa. Parce que le marché de la voiture sous-compacte et compacte se dirige vers ce qu'on appelle des segments urbains, qui en fait sont des voitures à haillons, mais relevées de quelques centimètres avec un petit peu d'habillage pour nous donner l'impression que ce sont des gros trocs, mais c'est pas ça du tout. Là. Le Kicks, c'est correct, c'est honnête, mais disons que la qualité de fabrication, c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel. Ça manque un petit peu de puissance, ça manque de raffinement. Moi, j'ai vraiment trouvé que le coup de cœur, c'est un coup de cœur que j'avais nommé à la recherchiste par rapport à l'émission qu'on fait aujourd'hui, c'est le Hyundai Kona.
Oui.
Ce produit-là, vraiment, là, on a ciblé la clientèle avec un produit qui offre une gamme variée, un choix de mécanique, un très bel équipement. Le prix est bien, la garantie est excellente. C'est 500 000 km de base, comme toutes les Hyundai d'ailleurs. Et je trouve que le rendement, le confort, l'espace intérieur, pour le genre de véhicule que c'est, il n'y a pas mieux dans le marché actuellement.
Ah oui?
C'est vraiment une très belle
formule. Combien ça coûte, ça, à peu près?
Ça joue de 21, moyenne, 22 à 30 000.
C'est
ça,
ah, donc, oui, c'est okay. tout. Mais Hyundai, c'est-tu fiable, ça?
Ben oui, absolument. Les véhicules, l'exemple que j'avais donné aussi à la recherchiste, moi, je parlais de la Hyundai Accent.
Oui, l'Accent.
La petite Hyundai Accent, là, aujourd'hui, c'est une voiture quasi indestructible. J'ai un partenaire avec qui je travaille qui, lui, en a plusieurs dizaines, parce qu'il y a une compagnie de livraison, une compagnie où on a besoin de véhicules de livraison, et il y a certains de ces véhicules qui ont 450, 475 000 km, et ça roule encore. Et on remplace des roulements de roues, des tringleries d'essuie-glace quand on laisse les essuie-glaces pris dans glace l'hiver. C'est à peu près tout.
Donc,
c'est
là, vraiment... toi, t'aimes beaucoup la nouvelle Hyundai Accent.
Oui, la nouvelle Hyundai Accent, c'est une petite bagnole que j'ai trouvée très bien, super efficace. Mais évidemment, c'est un marché qui est en beige.
Et la Kona.
Mais la Kona, vraiment, moi, j'irais là avant la Nissan Kicks. Ouais. Maintenant,
et
je comprends.
Et avant la Honda HR-V?
Ben, le Honda HR-V, c'est un produit très bien, très honnête, mais surtout intéressant pour l'espace intérieur.
Voilà, si puis c'est fiable.
Ben, c'est fiable.
Honda, c'est fiable.
Honda, c'est fiable et c'est le volume intérieur. Mais technologiquement, on est en retard avec ce véhicule-là. Ouais. Il est en fin de carrière, de toute façon, le Honda HR-V.
Ah, ouais.
De toute façon, allez conduire les deux, vous allez comprendre ce que je veux dire.
Ah,
ouais. Le HR-V, c'est d'un ennui mortel à conduire par rapport au Hyundai Kona.
J'aurais une préférence pour le moteur turbo dans le Kona, parce qu'il y a un moteur 2 litres de base, qui est correct, mais le moteur turbo est vraiment plus le fun.
Ben, il est plus le fun, mais en même temps... Puis vous ne consommerez pas plus avec le moteur turbo, ce qui est la bonne nouvelle. Par contre, attendez-vous à des entretiens juste un petit peu plus coûteux. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un moteur qui, idéalement, on le roule au super, c'est un moteur turbo.
Ah.
Deuxièmement, transmission DCT, double embrayage, donc ça demande un entretien un petit peu plus rigoureux qu'avec une transmission régulière. Mais,
C'est plus allez que du bonbon.
Mais là, je pense que Geneviève est prête pour aller magasiner.
Oui, merci beaucoup.
Merci grand plaisir.
Merci bien. On s'arrête ici. On vient tout de suite après avec d'autres commentaires de nos auditeurs. Vos questions, 1-866-790-9850, sans frais partout au Québec. Et dans la grande région de Montréal, vous nous joignez en faisant le 514-790-9850. À tout de suite. On est en compagnie de nos deux experts en automobile, Antoine Joubert, Benoît Charrette. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à vous.
Avez-vous réfléchi, vous, si vous aviez une plaque là, à payer 250$, qu'est-ce que vous mettriez? Parce que j'ai plein de super exemples. Il y a Martin qui m'a écrit, Martin, c'est très drôle, il dit, moi, ma plaque, c'est Marc Bergevin qui me l'a inspiré. E-X-C-H-F-A-N. Ex-C-H-Fan. Je la trouve trop bonne.
Oui, elle est très bonne.
Ancien fan du CH. On serait beaucoup sur cette plaque-là.
Oui.
Elle vaut très cher. Vous, ça serait quoi, Stéphane?
Oh, je sais pas, madame. Peut-être, moi, je sais pas. J'ai aucune idée. Mais moi, ma question pour
Allez-y.
Moi, ma question, madame, je viens de vendre mon bateau.
Oui.
J'avais un Forerunner qui traite le bateau.
Oui.
Là, ma femme, elle est ingénieure pour le gouvernement. Puis elle travaille avec les énergies renouvelables.
Oui.
Là, elle aimerait ça faire une transformation verte. Puis là, je voulais savoir ici, dans les deux prochaines années, s'il va y avoir un petit SUV qui va être 100% électrique, qui va être un petit peu plus gros que le Kona.
On aimerait ça, on aimerait tout, on serait nombreux à vouloir l'acheter. Benoît Charrette.
Il y en a un qui s'en vient, c'est le Jaguar. Là, on s'entend que ce n'est pas abordable, mais le I-Pace va être 100% électrique. C'est un utilitaire.
On parle de 100 000 $ là,
mais c'est ça. Là, il en existe. Pour le moment, la seule qui offre une certaine autonomie électrique, c'est la Outlander.
Ah, puis ça, c'est un PHEV, c'est ça.
PHEV,
mais
c'est
des véhicules 100%
électriques,
VUS, attendez-vous à ce que ça arrive, c'est bien évident, le marché s'en va là. Audi travaille sur un produit actuellement.
Mercedes. Volvo, parce qu'ils ont promis qu'ils ne feraient que de l'électrique en 2020.
En fait, ils ont promis qu'il y aurait de l'électrique dans tout ce qu'ils font.
Ouais.
Ils n'ont pas promis que ça sera 100% électrique partout.
Mais moi, j'avais lu, écoute,
c'est-à-dire qu'il va y avoir des versions électriques de chacun des modèles en 2020. Mais est-ce qu'on n'éliminera pas complètement les modèles à essence? Mm-hmm. Mais moi mais ce après, que j'attends.
Ça me prend de l'autonomie, là, parce que c'est des véhicules fabuleux. Moi, j'ai eu la chance, grâce à toi, Antoine, d'essayer un Volvo
XC90.
Que j'ai beaucoup aimé, sauf sur l'autonomie. Sur l'autonomie, je trouvais que c'était un peu léger. Là,
l'autonomie électrique.
Ouais, l'autonomie électrique. Alors, tu es souvent sur le moteur à essence. Puis bon, sinon, c'est sûr que c'est un véhicule fabuleux. Puis qui apparemment...
Parce que j'ai hâte de
tu
vas
jamais
arriver.
Au garage parce que tu n'as jamais de problème avec ces véhicules-là. T'sais.
Moi, ce que j'ai hâte de voir arriver, c'est le futur modèle de GM qui va être basé sur la technologie de la Chevrolet Volt actuelle et qui devrait être un VUS.
Ouais,
parce que les rumeurs veulent que la Volt soit appelée à disparaître pour être remplacée par un petit VUS qui serait basé sur la même technologie. Ça va être intéressant.
Ils changeraient la charpante un peu parce que c'est
t'habilles la plateforme différemment parce que la même plateforme va être utilisée.
D'ailleurs, c'est la mode actuellement. On fait ça chez tous les constructeurs. Mm. Un Ford EcoSport, qui est un petit utilitaire, c'est une Ford Fiesta.
Exact.
Un Chevrolet Trax ou un Buick encore, c'est une Chevrolet Sonic. Mm. Alors, on fait ça partout, là.
Ah oui. Donc, et puis là, on parle de quelle année là, pour le GM, tu disais?
D'après moi, c'est 2020-2021.
Ouais. Voilà. Bon, ben voilà pour vos questions, Stéphane. Merci de votre appel. Rosemarie, bonjour.
Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour. J'écoute.
Je vais essayer d'être bref. Moi, je voulais savoir un conseil de vous deux spécialistes. Mm-hmm. C'est parce que moi, je me cherche une voiture et puis j'ai tombé sur une Mazda CX-5 2016 avec 13 000 quelques kilomètres à peine. Puis il demande, c'est même la Sadler, la Mazda Luxe. Et puis, il demande 26 000 $. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon prix ou alors, parce que c'est une 2016 quand même?
Ou
c'est pas si grave que ça, madame? Attendez.
Moi, je vous dirais, ben, tout dépend de la version parce que entre.
Ça dépend ce qu'il y a dedans, mais 26 000
Entre un Mazda CX-5
cher,
GX et un Mazda CX-5 GT, il y a 10 000 $ d'écart sur la valeur. Alors, si vous me dites c'est un modèle GT, donc, avec siège de cuir.
Tout équipé, là.
C'est un modèle GS.
Ah, c'est un GS.
C'est un milieu de gamme.
C'est un milieu de gamme.
Et c'est un 4 roues motrices ou un 2 roues motrices?
Oui.
4 roues motrices.
C'est
d'accord.
C'est un prix correct. C'est pas, c'est pas un vol.
Non, on vous fait pas un rabais, là. Vous êtes dans le prix du marché.
C'est ça.
Grosso modo.
Fait que négociez le don un petit peu, Rosemary. Ouais.
C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de kilométrage, mais en revanche, des Mazda CX-5 sur le marché d'occasion,
il y en a beaucoup. Ouais,
Il n'en manque pas.
André pose une question pour vous, messieurs. Honda Fit 2019, il dit j'en ai une de 2009, je suis à 415 000 kilomètres, ou Toyota Prius C 2018?
Ah, non. Oubliez la Prius C. Oubliez ça.
Honda Fit 2019.
Moi, j'irais la Honda Fit, même si on ne s'entend pas parler à l'intérieur. Quoique la Prius C, c'est encore pire.
Ouais, mais... je t'ai pas dit, t'es pas bébé.
C'est ça. Le gros défaut de la Honda Fit.
Pourquoi ça fait du bruit quand
même?
C'est une voiture bruyante. C'est dommage parce qu'Honda ne veut pas en vendre de ces voitures-là.
Non, puis c'est un bon petit véhicule.
On n'a pas d'incitatif au financement. Non. Vous entrez chez le concessionnaire pour acheter une Fit, on veut vous asseoir dans une Civic.
Toujours.
Et c'est une voiture qui est intéressante, mais qui financièrement n'est pas très alléchante.
Mm-hmm. Mais c'est très pratique, c'est très polyvalent, il y a beaucoup d'espace. Moi, ma sœur en a une, j'y ai fait acheter ça, puis elle est morte de rire.
Oh oui, c'est une voiture très,
ça
très
va extrêmement bien, mais passer 110 km/h, là, c'est un peu bruyant.
J'ai des questions intéressantes par rapport à l'achat et la location. C'est vrai. Puis ça, Antoine Joubert, tu voulais en parler, Antoine, parce que tu dis au Québec, on a souvent tendance à louer. Hein. C'est ici,
ben,
au Québec.
On loue plus que n'importe où ailleurs en Amérique du Nord.
Est-ce qu'il y a une raison pour ça, là, à part des raisons peut-être fiscales, parce que d'un point de vue fiscal, c'est une entreprise,
c'est
incorporé.
C'est...
Mais sinon, pourquoi les gens louent des véhicules? C'est-tu parce qu'on se tanne vite puis qu'on se dit au bout de 3 ans, on la change?
Ben, parce que les gens... Au Québec, on est plus amateurs de voitures que partout ailleurs au Canada. Ça, c'est connu. Et ça permet évidemment à la location d'avoir accès à une voiture qu'on n'aurait pas les moyens d'acheter.
Ouais.
On peut la louer à prix moindre, mais on ne peut pas nécessairement la financer. Et les gens aiment ça, changer de véhicule souvent, etc. Mais il y a beaucoup de pièges là-dedans. D'abord, moi, ce que je dis aux gens, vous louez une voiture, calculez à peu près combien vous allez faire de kilométrage par année. Si vous faites 8 000 km par année, vous ne louez pas une voiture avec laquelle vous avez droit à 20 000 km. Mmh. Vous jetez votre argent par les fenêtres. Achetez-la.
Si tu fais 25 000...
Et que ça se peut que tu fasses 30...
Et peut-être 30.
Tu peux négocier, là. Mais tu peux le négocier aussi.
Tu peux le négocier.
Tu peux le négocier, mais ça devient peut-être un peu moins alléchant. Ce qui est important de regarder...
Et là, si jamais tu dépenses, je peux vous le dire, j'ai dû acheter ma voiture à cause de ça. Je leur aurais dû 9 000 $ en kilométrage.
Tu aurais pu faire reculer ton kilométrage aussi.
Je ne fais pas ça.
Non, OK. Mais il y a un Québécois sur quatre qui le fait.
Je sais.
Bon.
Mais moi, je suis tellement kosher, by the book, tout ce que tu veux.
Félicitations, Isabelle.
Dans la tête,
fière de toi.
C'est ça.
Mais ce que je dis, ce que je dis
beaucoup
aux gens...
Non, ça me permet de chialer.
Ben oui. Ce que je dis souvent aux gens aussi, c'est regardez quelle est la valeur résiduelle au bout du terme. Mm. Ça a un impact magistral sur le paiement de location que vous allez avoir, sur la valeur de l'auto. Et là, actuellement, on chevauche entre les modèles 2018 et les 19 qui vont arriver.
Oui.
Alors, il faut comprendre une chose. Si vous louez un modèle 2018 aujourd'hui, il vaut moins cher qu'un modèle 2018 qui a été loué en septembre passé, parce qu'il y a presque un an d'âge au catalogue.
Puis un an, c'est majeur.
Donc, la valeur résiduelle de ce véhicule-là, elle est moindre qu'elle était en septembre passé.
Ouais.
Si la valeur est moindre, les paiements augmentent. Alors, qu'est-ce que fait le constructeur pour égaliser le tout? On fait baisser le taux d'intérêt à la location pour que le paiement demeure à peu près le même. Et des fois, on n'est pas en mesure de le faire. Donc, le paiement peut monter un petit peu. Et tout le calcul est là. Alors, l'idéal,
mais
c'est d'aller chercher...
une voiture 2019 en ce moment-là, non? Est-ce qu'il y a des avantages à acheter...
Bien, la 2019, évidemment que la valeur résiduelle va être plus élevée. Ouais. Par contre, le taux d'intérêt va être plus élevé, généralement. Okay. Si on offre du 0%, puis il y a toute la question aussi de négociation du montant d'achat et tout ça. Mais l'idée, c'est d'aller chercher la valeur résiduelle la plus élevée, le taux de financement ou de location le plus bas. Et de négocier le prix le plus facilement possible. Ouais. Tout en évitant, bien sûr, le piège du directeur financier qui, lui, va vouloir vous vendre un paquet de trucs et que vous allez mettre dans le paiement de location de financement, mais qui ne sont pas des produits qui sont résidualisables. Par exemple, si vous louez un véhicule et vous décidez de mettre un déflecteur de capot, un traitement anti-rouille et des vitres teintées, vous ne paierez pas 48 % de la valeur des vitres teintées. Vous allez les payer au complet sur votre paiement de location.
Mais je trouve que maintenant, une autre des attrapes, puis tu n'as quasiment pas le choix, parce que moi, je me suis fait attraper comme ça, à rendre un véhicule loué, puis à le faire... Là, ils te l'évaluent, puis ils disent « Ah, ben il y a un... » Il n'y a pas une usure normale. Tu dis, ben voyons, oui, une usure normale. Il y a ça, la peinture ici, il y a des petits éclats de roche. Tu dis, ben oui, ma voiture, elle a 3 ans, c'est pas une voiture neuve. Si elle était neuve, je t'en rendrais.
Il n'y aurait rien. Hein?
Alors là, ils te chargent.
Ouais,
là, finalement, pour éviter ça, la prochaine fois, ils disent, est-ce que vous voulez l'assurance, comment ils appellent ça, la tête libre, là, l'assurance...
Qui va coûter 1 500. Mais là, on s'entend.
Ça peut être plus cher que ça.
Oui. Oh, ça va à 3 000 à 4 000.
Oui, oui, oui.
Puis là,
tu la rends.
De avec ça,
tu la rends, puis t'as pas, tu dis au moins, ils ne reviendront pas avec une autre facture.
Tu vas l'accrocher dans un arbre.
Moi, je suis absolument contre ça.
Mais c'est épouvantable, pareil.
À moins que vous...
C'est comme une garantie prolongée, si tu veux. Une autre garantie prolongée.
À moins que vous vous connaissiez comme brise-fer dans la vie, là...
Il y en a.
Il n'y a personne qui devrait débourser pour une affaire
de même. Non.
Mais la trappe des concessionnaires, souvent, ça va être de dire, bon, ben ramène-nous ton véhicule, on fait l'inspection. Ouais, c'est sûr qu'il y est limite pas mal. On devrait te charger pour des pneus, on devrait te charger pour ça, etc. Par contre, si t'en prends un autre, on va fermer les yeux.
Voilà.
Hein?
Tout le temps.
Alors moi, ce que je dis aux gens, vous louez un véhicule, ne louez pas le véhicule pour une période trop longue. Des locations 60 mois, ça n'a aucun bon sens. Vous louez un véhicule 5 ans, il a 90, 100 000 km à vous redonner les clés. Ça veut dire que vous avez probablement fait les freins, changement d'huile à transmission. Vous avez fait beaucoup de réparations sur un véhicule pour ensuite redonner les clés.
Au maximum,
vous louez sur 48 mois et dans un monde idéal, pas plus long que la période de garantie.
Voilà, moi c'est toujours ce que je dis aux gens. Vous louez la période où le véhicule est garanti.
C'est ça l'intérêt.
Même en location, dépasser la garantie, c'est aux frais du locataire.
Le
locataire ne paye pas pour.
C'est
aux frais du locataire, c'est ça, oui.
Mais vous, est-ce que vous achetez ou vous louez?
J'en ai loué un récemment. Justement pour des raisons fiscales, mais aussi parce que c'était plus alléchant de le faire en location, parce que le taux de location était plus bas que le taux de financement.
Ouais.
Alors, dans ce cas-là, ça valait la peine. Mais généralement, je préfère acheter moi personnellement, mais c'est une question...
Parce qu'après ça, quand t'es tanné, tu le vends. C'est la liberté aussi de pouvoir dire c'est à moi.
Ouais. Pour les mêmes raisons qu'Antoine, le dernier que j'ai, il est loué. Mais c'est le premier. J'ai toujours acheté avant.
Ouais. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On vient avec nos spécialistes et vos questions. Tout de suite après, restez là. Il y a Rock qui regarde une Infiniti G37 décapotable, 4 roues motrices, 2013-2014. Antoine?
Ça, c'est une décapotable tellement mal faite. Là. Ça, c'est comment scraper une bonne voiture. Le toit rigide qui prend l'espace complet du coffre, qui craque, qui affecte la rigidité du châssis.
Un collègue à moi avait déjà oublié une valise, puis il a fermé le toit dessus.
Ah, c'est ça.
Aïe, aïe,
ça. Non, ça, c'est. Dans la catégorie des mauvais cabriolets, là, celle-là, elle passe à l'histoire.
Une Daycona ou Kia Niro, Patrick demande laquelle vous préférez. Il est intéressé par les deux, mais en modèle 100% électrique. Je pense qu'ils sont. La Kona électrique n'est pas encore arrivée.
Non, ouais, c'est annoncé, ça. On l'a vu.
Mais c'est ça, on l'a vu au salon de la voiture électrique.
Ça arrive
mois.
Prochainement et on promet une autonomie assez impressionnante.
Très intéressante. Elle est très cute, moi, je trouve.
400 km, mais les deux vont profiter exactement de la même technologie parce qu'il y a une des Kia partage les technologies, le font pour les deux.
Ça
sera une question, ça se vaut.
C'est une question de goût personnel.
On a Sylvain avec nous. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, moi, j'ai une question. Moi, je vais voyager Berthier-Montréal, puis je voulais savoir, côté économie d'essence, je vais peut-être m'acheter une voiture neuve. Je devrais-tu aller dans le Toyota ou dans le Honda, côté fiabilité aussi, là, mécanique et tout? Là.
Vous regardez quoi, un camion, une voiture?
Non, une voiture économique. Là.
Okay, donc, Civic ou Corolla, ben, écoutez, c'est vraiment une question de goût personnel, là.
Moi, entre les deux, je prends une Civic. Là,
ouais, moi aussi.
Parce que c'est plus confortable, c'est plus agréable, c'est plus polyvalent, c'est plus...
Un peu mieux sonorisé aussi. La Corolla a vieilli. Ouais. On remplace... La berline Corolla va être refaite d'ici 18 mois. Il y a une nouvelle version hatchback qui arrive très prochainement.
Oui, le lancement est au mois d'août.
C'est ça. Pour l'heure, je pense que la Civic est une voiture un peu plus intéressante. Mais dans aucun des deux cas, vous allez avoir une voiture à problème. Ce sont des voitures très fiables, très économiques. Mais la Civic est plus agréable et probablement un peu plus spacieuse aussi, j'oserais dire.
Oui.
Le plaisir de conduire, là, si c'est
le plaisir de conduire.
J'en ai déjà eu une il y a longtemps, j'ai adoré
mais c'est
et j'ai
ça,
eu
Civic,
zéro
là.
Problème.
Moi, je dis c'est que la Civic a vieilli avec sa clientèle. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui achetaient une Civic dans les années 80 avaient 20 ans. Ce sont encore les mêmes aujourd'hui qui achètent une
90,
Civic. J'exagère, là. Oui. Mais
Antoine,
c'est une voiture qui s'est...
90, là?
90? Ouais. OK, 90, ouais. Isabelle. Hey. 90. Alors, mais c'est une voiture qui s'est embourgeoisée par rapport à ce que ça a déjà été.
C'est vrai,
et c'est
ça.
Moins... amusant à conduire que par le passé, à moins qu'on aille dans des versions SI.
Tu prends la Type R ou la SI, là, c'est une autre affaire.
Encore faut-il vouloir être vu au volant de cette horreur.
Vite, Richard, vous allez être notre dernier auditeur. On vous écoute. Vous avez une question?
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Richard.
Bonjour.
Moi, j'ai 57 ans et puis je viens de tomber en amour avec la Veloster, Hyundai Veloster.
Ouais.
Hey, qui est le fun.
Je viens juste de la conduire, celle-là.
Ah oui? Antoine, comment t'as aimé ça?
Hey, j'ai trouvé ça tellement mieux que l'ancienne.
Ah oui, il n'y a pas de comparaison.
C'est deux mondes complètement.
C'est quoi comme...
c'est un petit véhicule trois portes, disons-le comme ça. Une porte
c'est un
côté.
Coupé sport, mais...
Ah,
c'est un coupé sport, sauf que d'un côté, du côté passager, on a deux portières. Du côté conducteur, on en a une seule.
Alors,
c'est bizarre. C'est-tu décapotable, ça décapote-tu,
Non. C'est un coupé. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la plateforme. On a amené des moteurs qui ont un peu plus de pep. C'est tout le moteur turbo, à mon avis, qui est celui à acheter.
Ouais.
Puis c'est une plateforme d'Elantra GT. Donc, c'est une plateforme qui est
très rigide.
Plus rigide, plateforme européenne à la base. Puis ça en fait un petit véhicule sportif crédible. Avant, ça avait l'air, mais pas la chanson. Maintenant, ça a l'air et la chanson pas mal. Puis il va y avoir un modèle N qui va arriver en novembre à peu près avec un 2 litres turbo de 275 chevaux.
Je pensais que c'était
on l'a pas roulé encore.
Je pensais que c'était un électrique.
Non,
c'est
pas
N,
du tout.
N, c'est la division N, ça va être la version performante.
Elle est excellente, Isabelle.
Je te remercie d'être le seul à l'avoir poignée. Merci beaucoup. Benoît, il était dans ses affaires. Là.
Mais non, la Veloster, très bonne petite bagnole. Moi, j'ai go si vous aimez, aimez
absolument,
la formule.
Absolument.
Vite, Toyota RAV4 2019 pour Gilbert.
Oui, on l'a pas roulé, ça encore. C'est tout nouveau.
Bon, fabriqué au Canada.
Va être
fabriqué
intéressant.
Chez
je pense que notre prochain débat, ça va être allez-vous encore acheter des voitures américaines? Parce que Yves, entre autres, qui me dit moi, j'achète plus ni GM ni Ford des tarifs douaniers puis de l'espèce de guerre commerciale de leur président. Messieurs, si vous êtes formidables.
Là, on s'en voit pas.
Regarde, les lignes sont toutes pleines.
Vacances.
On aurait pu faire une autre heure. On aurait pu continuer là-dessus. Merci aux auditeurs qui ont appelé pour poser des questions. Merci beaucoup, Benoît Charrette. Merci, Antoine Joubert. Qu'est-ce que vous allez faire?
C'est le 27 juillet, la date où vous pouvez réserver votre plaque d'immatriculation personnalisée.
Ah, décroche pas.
Hein?
Ouais.
Alors, tu vas faire ça, puis au retour
Isabelle,
des vacances, tu diras c'est laquelle.
Oui. Merci à vous deux.
Bye bye.